Nuit des idées 2022, à l'espace Mendès France, à Poitiers. Reconstruire ensemble.
Bonsoir et bienvenue à bord de la Nuit des idées. Nous sommes le jeudi 27 janvier 2022, il est 18h30 et 25 secondes et comme tous les derniers jeudis du mois de janvier, depuis 2016 déjà, l'Institut français invite des lieux de culture et de savoir en France et sur les 5 continents à célébrer ensemble la libre circulation des idées et des savoirs. Pour la deuxième année consécutive, l'espace Mendès France à Poitiers propose une programmation artistique, culturelle et scientifique autour de la thématique choisie « Reconstruire ensemble ». Après 2 années marquées par la crise sanitaire et les bouleversements sociaux, économiques et culturels qu'elle a engendrés, comment envisager un avenir commun? Comment faire face aux grands enjeux de demain? Comment répondre aux attentes d'une société plus juste et plus égalitaire? Scientifiques, artistes et citoyens sont invités à partager leurs connaissances, leurs réflexions et leurs points de vue. Ensemble, ils interrogeront ce qui nous réunit et la manière dont nos imaginaires nous rapprochent les uns des autres. Au programme de cette émission spéciale, un concert de Baron Chien qui reprendra en direct du Planétarium l'album Rock Bottom du musicien anglais Robert Wyatt. L'occasion d'entendre, entre autres chefs-d'œuvre, un de ses morceaux les plus emblématiques, Sissang, mais aussi, je crois, quelques compositions originales de Marion Berthier et Xavier Vauchel, aka Baron Chien. Une rencontre thématique animée par Pascal Chauchefoy, directeur scientifique, et Héloïse Morel, coordinatrice et journaliste à l'Espace Mendès France. Ils s'entretiendront avec Tom Pascoe van der Merch, dessinateur et créateur du Club de Bridge, et Anaïs Capillon, membre du Bureau des Jeunes du Conseil Communal de Poitiers. Ils évoqueront leurs expériences autour du questionnaire du philosophe et sociologue Bruno Latour. Il sera également question de cabane dans la chronique de Paul Boudeau et de la poète britannique Kate Tempest, dont le texte fracassé a servi de matériau à Rodolphe Gentilhomme et les élèves du CPES du Conservatoire de Théâtre. Une petite note anglo-saxonne donc ce soir à Poitiers pour teinter cette nuit des idées et peut-être ne pas oublier qu'elles peuvent encore circuler librement les idées, malgré les choix politiques, malgré l'isolement et le repli sur soi, malgré la nécessaire destruction des modèles passés, reconstruire ensemble, grâce aux penseurs, aux artistes, à tous les acteurs d'un nouveau mode d'action, mais aussi grâce aux techniciens, j'en profite pour saluer Julien, Victor et Alain, sans qui toutes ces idées ne voyageraient pas aussi facilement. Reconstruire ensemble, le thème de cette nuit spéciale en direct de l'EMF et en duplex avec Limoges et son indispensable radio Bob FM qui accueille ce soir nos confrères de Récréascience, le centre de culture scientifique, technique et industrielle du Limousin. Bonsoir Célim, est-ce que vous m'entendez ?
Bonsoir François, bonsoir Héloïse, on vous entend 5 sur 5.
Célim, je crois qu'à Limoges également il fait nuit.
Exactement.
Ça y est.
Ça y est, la pénombre est présente, mais elle est plutôt chaleureuse.
J'ai une idée.
Allez, je vous écoute.
Je vous passe l'antenne.
Parfait, super. Merci beaucoup pour ce passage de relais. Et merci à tous d'être présents. Bienvenue donc pour cette Nuit des idées 2022. Et on a le plaisir ici à Limoges, dans les studios de la radio Bob FM, de faire un peu ce petit préambule finalement, avec cette thématique reconstruire ensemble. Voilà donc le défi qu'il est nécessaire de relever aujourd'hui. Après, donc, comme on a pu l'entendre, évidemment, une crise sanitaire qui n'a pas fini de nous surprendre. Alors après la réaction, les aides des institutions, la solidarité qui est extraordinaire, qui s'est mise en place entre les citoyens, il est temps pour l'humanité de pouvoir s'adapter, devenir résiliente. Pour cela, les nations du monde entier se doivent d'avoir une vision sur le long terme pour l'émergence d'une nouvelle organisation des grandes institutions de notre société. Ce soir, avec mon invité que je vais vous présenter d'ici quelques instants, nous allons nous concentrer sur 2 piliers qui doivent être reconstruits, reconsolidés d'urgence, le monde de la santé et le monde de l'éducation. À l'instar du principe de résilience économique, peut-on redessiner les contours d'une résilience éducationnelle et de la santé en France? Est-ce que cela existe déjà? Comment déployer cela? Quels sont les enjeux et les moyens à mettre en œuvre pour réussir à s'adapter à de prochaines catastrophes ou crises sociétales que l'on n'espère pas, mais qui peuvent arriver malheureusement? éléments de réponse et perspective avec mon invité David Autier. Bonjour David.
Bonsoir tout le monde.
Donc vous êtes enseignant-chercheur et maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Limoges. Et vous êtes également président de l'UNIRES, l'UNIRES qui est le réseau des universités pour l'éducation à la santé. En vrac par rapport à votre pédigré, eh bien vos recherches portent sur l'éducation thérapeutique du patient, la didactique, la promotion de la santé, la prévention des conduites addictives, ainsi que les conceptions dans le domaine de la santé. Mais j'imagine que ce n'est qu'un petit extrait, peut-être, de tout ce que vous faites.
Vous avez tout dit, c'est bien.
Super. Alors maintenant que j'ai dit tout ça, est-ce que, avant de commencer dans le vif du sujet, vous pouvez nous expliquer en quelques mots concrètement ce que vous faites au quotidien en tant qu'enseignant-chercheur ?
Alors un enseignant-chercheur, il a trois mi-temps. Il donne des cours. D'abord à des étudiants, donc de licence, de la première à la troisième année, master 1, master 2. Il suit également, s'il est HDR, des doctorants.
Alors HDR, ça veut dire ?
Habilité à diriger des recherches. C'est le dernier diplôme délivré par l'université après le doctorat.
Très bien.
Donc j'ai la chance d'être HDR depuis peu. Il donne des cours. Ensuite, dans un deuxième mi-temps, il s'occupe de tâches administratives, d'organisations diverses et variées. Et puis, dans un troisième mi-temps, il fait de la recherche.
Très bien. Bon, je crois que c'est à peu près assez complet pour comprendre un petit peu tout ce que vous faites. Alors, dans cette grosse thématique Reconstruire ensemble, on va s'intéresser durant notre petite demi-heure à une problématique qui vient d'une publication que vous avez co-réalisée avec d'autres enseignants-chercheurs de l'UNIRES. Elle s'intitule « En quoi la pandémie interroge-t-elle les liens entre éducation, santé et société ?» Je crois qu'on est en plein dedans. Et finalement, pouvez-vous nous parler tout d'abord de l'élaboration de cette publication, de la genèse ? Pourquoi en 2020, donc il y a deux ans, directement dans le jus de l'apparition de la Covid, si je peux dire ça ainsi, pourquoi vous avez élaboré cela ? Quelle a été la réflexion ?
Alors, c'est tout simple. C'est-à-dire que pendant le confinement, donc de 2020, le vrai confinement, le confinement assez dur que nous avons eu pendant le printemps 2020, eh bien, nous avions des réunions en ligne, évidemment, au sein du réseau UNIRES. Et le réseau abrite une commission scientifique. Et donc, nous sommes une soixantaine d'enseignants-chercheurs. Bon, là, à chaque réunion, nous étions une vingtaine. Et confinés, évidemment, chez nous, nous réalisions des cours à distance, tant bien que mal. Et puis, on s'est dit, ben, pourquoi est-ce que, puisqu'on a un peu de temps, on n'en profiterait pas pour réfléchir ensemble à réagir avec les valeurs qui nous portent liées à la promotion de la santé, réagir devant ce confinement, devant cette situation inédite, parce que pour beaucoup c'était complètement inédit, devant cette situation inédite que subit entre guillemets la société. Et donc, en fait, vous avez des enseignants-chercheurs issus de la psychologie, issus de la médecine, des sciences médicales, issus des sciences de l'éducation, de la sociologie, qui se sont réunis, qui ont discuté entre eux, et puis qui ont élaboré cet article.
D'accord. Et dans cet article, donc, je cite, cette production donc, plurielle donne l'opportunité de repenser les moyens d'agir donc, sur la santé, comme vous l'avez dit, individuelle et collective, au profit de l'éducation à la santé de demain, en faisant appel au collectif, à la solidarité, à la collaboration avec les populations. Quand on a constaté tout ça, cela veut-il dire que l'on doit tendre plus d'horizontalité dans les prises de décision aujourd'hui, justement, pour faire face à ces problématiques ? Et deuxième question, est-ce que c'est vraiment possible de faire ça en France ?
Je vais dire oui, hein, parce qu'on va essayer d'être optimiste. Et puis surtout à l'approche d'élections présidentielles. L'idée n'est pas nouvelle. Hein. Vous voyez, tout ce que vous avez dit, ce sont des valeurs que l'on porte en particulier au sein du réseau UNIRES depuis une quinzaine d'années. L'idée, c'est de la jouer collective. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'humain a été confronté à des situations délicates, il n'y a que le jeu collectif qui lui a permis de sortir vainqueur. Et donc, alors vainqueur, j'emploie ce terme à dessein, puisque notre président avait parlé de guerre contre le virus. Je ne sais pas qui la gagnera. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a besoin de gagner quelque chose.
Et puis, est-ce que c'est aussi une guerre ? Est-ce que le vocabulaire martial commercial. Alors ça, c'est un autre débat, hein, mais est-ce que c'était le plus à même pour pouvoir se confronter à cette crise, justement ?
Je pense que petit à petit, alors il avait probablement raison en posture politique de réagir comme ça au tout début de la pandémie, pour que progressivement, on se rend bien compte qu'il va falloir plutôt apprendre à vivre avec. Vivre avec un virus, et ce n'est pas le premier, ça ne sera peut-être pas le dernier d'ailleurs, de façon à, ça rejoint ce que vous indiquiez tout à l'heure, hein, vivre ensemble. Et c'est toujours ce que l'évolution a mis en avant pour que des espèces restent sur Terre.
Et donc, par rapport à cette publication, quand elle est sortie, comment a-t-elle été accueillie ? Quel est son objectif aussi ? Est-ce qu'il y a eu des réactions de la part d'institutions ? Par exemple, on va y venir après, on va parler de l'éducation dans la question suivante, mais quels ont été les retours à ce sujet ?
Alors, c'était post-confinement, juste après le confinement, mais bon, les institutions étaient très occupées pour préparer la rentrée pour ce qui est de l'éducation nationale, pour continuer à gérer la situation pour ce qui est du ministère des Solidarités et de la Santé. Donc on n'a pas eu, moi j'ai, en tant que président d'UNIRES, je n'ai pas eu de retour des institutions. J'ai eu quelques retours, oui, d'autres collègues qui m'ont dit qu'ils auraient bien aimé participer à la réflexion. Mais je n'ai pas eu d'énormes retours. En fait,
Et c'était quoi votre vœu pieux par rapport à cette publication avec vos collègues ?
Je pense que le vœu, c'était déjà de réussir à travailler ensemble, parce que ce n'est pas évident de mettre, alors je ne sais plus combien on était là, mais il y avait bien une quinzaine de noms, hein, sur la publication, faire travailler 15 enseignants-chercheurs sur un même texte de 2-3 pages, non, un petit peu plus, 4-5 pages, c'est pas forcément évident. Issu de mondes différents, parvenir à unifier un petit peu et donner un sens à l'écrit, c'était déjà pas mal. Alors après, les valeurs qui sont transportées par le texte, oui, elles sont intéressantes. Si jamais, effectivement, des politiques là pouvaient s'en emparer, je pense que ça serait une belle chose, oui.
C'est une publication que l'on peut retrouver où déjà exactement, si des citoyens souhaitent s'en emparer ?
Alors, elle est sortie dans une revue indexée par le Haut Comité de la Science, le HCERS. Donc, c'est la revue Recherche Éducation. Donc, qui est une revue scientifique. Hein. Donc, c'est un article, hein, qui a été évalué par des pairs et donc qui a une valeur d'article scientifique.
Qui est accessible à tous ?
Oh oui, sa lecture est tout à fait accessible à tous. Il n'est pas jargonnant. Si vous en avez envie, alors je peux assurer un service après-vente, c'est-à-dire que vous pouvez m'envoyer des messages ou passer par la radio, et puis moi, je vous renverrai l'article sans aucun problème, s'il y a des gens qui le désirent.
Eh bien, avec plaisir. Allez, avant de continuer sur quelques questions que j'ai pour vous au niveau de la résilience éducationnelle, on va faire un petit break musical, justement, parce qu'il est 18h43 et on est bien en direct des ondes du 89, et ce sera quelque chose d'assez doux, même s'il fait nuit, eh bien, ça va être un titre assez ensoleillé, puisque c'est Sunny qui nous est proposé par Big Pig.
Dance.
À l'instant, on a pu écouter Big Pig avec ce titre Sunny. Il est 18h45, il nous reste encore un quart d'heure avec David Autier, je le rappelle. Donc, oulala, je me mélange les pinceaux. Ah si, c'est bien ça, c'est la bonne page. David Autier, pardon, vous êtes enseignant-chercheur et maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Limoges. Et on discute actuellement autour de la problématique de en quoi la pandémie interroge-t-elle les liens entre éducation, santé et société. Et justement, on va parler d'éducation. Et j'ai une question assez large. Vous allez me dire si on peut un peu discuter de cela. Alors, dans le monde de l'éducation, le constat le plus frappant qui a été vu par tous les citoyens, c'est cette violente transition vers l'éducation à distance. Et on a découlé beaucoup de problématiques, tant du côté des enseignants que des apprenants, des difficultés pour certains d'avoir le matériel adéquat pour prodiguer ou suivre les cours, la difficulté de certaines familles de pouvoir donner un cadre d'apprentissage serein à la maison, les inégalités matérielles, les inégalités en termes de connexion Internet. J'imagine que ce sont des choses que vous aussi, vous avez constatées en tant que professeur. A-t-on tiré les bilans aujourd'hui de ces dysfonctionnements et est-ce que nous sommes aujourd'hui, si je puis dire, mieux équipés ou encore c'est trop tôt pour cette question ?
Alors l'équipement a effectivement augmenté en qualité. Donc maintenant, nous avons des outils d'enseignement à distance qui sont capables de tenir 150 connexions simultanées. Parce qu'à l'université, faire un cours magistral à distance, ça signifie avoir 260 étudiants en même temps à distance. Donc vous doutez bien que quand la première fois, il a fallu ne serait-ce que brancher les micros, tout s'est mis à genoux. Donc là, l'université s'est dotée de serveurs un petit peu plus costauds. Et donc le dispositif technique fonctionne. Parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, enseigner à distance, c'est pas simplement mettre des documents à disposition. Les étudiants, ils en ont besoin, certes. Mais
le fameux cloud, quoi.
Mais je me suis rendu compte qu'ils avaient besoin du contact, c'est-à-dire d'avoir un enseignant qui leur parle, ne serait-ce que pendant 2 heures, comme ça, une journée, qui leur parle, qui échange avec eux sur un cours dans un premier temps, mais des fois, on restait une demi-heure, ils me posaient des questions sur tout et n'importe quoi, sur la pandémie, sur etc. Et ils avaient besoin de ce temps-là, d'échange. Donc ça, on s'en est rendu compte. Et puis, cet enseignement à distance, il a, comme vous l'avez dit, exacerbé les inégalités sociales. C'est-à-dire que ceux qui, effectivement, étaient sous-dotés en matériel informatique, parfois des enseignants eux-mêmes, ils perdaient pied complètement. Et donc, on a perdu, comme dans l'enseignement du premier degré ou du second degré, où ils ont perdu des élèves aussi, nous, on a perdu des étudiants aussi, dont on n'a pas entendu parler pendant 1 mois, 2 mois. Et on les a récupérés, tant bien que mal, ou pas, par la suite.
Et donc, la suite de ma question, c'était est-ce qu'il y a eu des corrections, des améliorations, des remises en question, justement, du système universitaire, en tout cas, pour prendre cet exemple-là, par rapport à cet enseignement à distance ?
Disons que le système universitaire, oui, a mis en place des formations pour les enseignants, pour nous apprendre à construire des cours en ligne, etc. Mais je pense qu'il a aussi appris, avant la pandémie, il y avait... la grande idée, c'était d'arriver à enseigner à distance. Bon, ce qui pouvait être une bonne idée. Mais l'idée qui se cachait un petit peu derrière, c'était faire des économies
d'échelle.
Ouais, voilà. Parce que quand les étudiants sont devant une formation à distance, ils ne sont pas avec l'enseignant. Et là, le point positif de la pandémie, ça a été de nous montrer que non, ça ne fonctionne pas. Il faut du présentiel et il faut également une présence humaine. Alors je dirais ouf, parce que je travaille en sciences de l'éducation, donc si on nous disait on peut se passer des enseignants, ça m'embêterait quand même un petit peu. Il se passe d'autres choses que l'on peut parfois même pas nommer, qui sont de l'ordre du gestuel, de l'inconscient, et qui favorisent l'éducation.
Alors, on voit dans d'autres pays, là, je vais plus parler, on va dire, du système éducatif dans le primaire et secondaire, notamment dans les contrées nordiques, qu'il y a un système éducatif qui est repensé depuis plusieurs années, en laissant aussi la place à des cours que moi j'ai intitulé de savoir-être. Mm-hmm. Par exemple, des cours d'empathie, on peut le voir en Norvège, je crois aussi au Québec, me semble-t-il. Oui. En France, on est encore dans un système, ou du moins j'ai l'impression, la sensation que nous sommes dans un système éducatif très axé sur la connaissance, le savoir pur, et quelque part, on minimise un peu ainsi les individualités des élèves. Doit-on faire ces efforts à ce sujet en France ? Y a-t-il une volonté politique à ce sujet ? Y a-t-il déjà eu des réflexions de chercheurs à ce sujet ?
Oui. Alors, il y a des réflexions de chercheurs. Vous avez d'ailleurs Daniel Favre de Montpellier qui vient de sortir un ouvrage sur le thème « Reconnecter l'école avec le vivant ». Son idée, hein, c'est justement de changer de paradigme éducatif en France, parce qu'on se rend compte que ce paradigme ne correspond plus à pas mal d'élèves qui réagissent moins bien avec un paradigme éducatif qui était transmissif, où on va essentiellement mettre l'accent sur des savoirs. Alors attention, que ça soit pas mal interprété, ce que je dis. Évidemment qu'on ne peut pas parler dans le vide, brasser de l'air. Il faut qu'on parle de savoir, il faut qu'il y ait des savoirs, mais il y a la façon de les faire passer qui peut justement travailler des compétences qu'on appelle les compétences psychosociales.
Oui, parce que c'est ce que j'allais dire quand j'ai pris l'exemple du cours d'empathie, c'est aussi pour former les citoyens de demain aussi, pour le civisme, le savoir vivre en communauté. Pourquoi ça bloque encore aujourd'hui en France ? Enfin, pourquoi ça bloque ? J'exagère peut-être, mais pourquoi en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui se diffuse ?
Parce qu'on a une vision encore un peu trop conservatrice de l'enseignement. La France a un enseignement assez élitiste et donc très basé, comme je vous le dis, sur des connaissances académiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut les supprimer, c'est-à-dire que le balancier ne doit pas partir complètement de l'autre côté. Mais on se rend compte, et l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, hein, qui a, en 93, listé les compétences dont vous parlez, dont l'empathie, les compétences psychosociales, et a indiqué, et on a de nombreuses études maintenant qui nous montrent que travailler ses compétences dès la maternelle, c'est efficace dans la lutte contre les conduites à risque, la lutte contre les addictions, la lutte contre les violences. Et là, on pourrait se dire, mais pourquoi on n'en fait pas plus ? Eh bien, il y a peut-être un manque en France du côté de la formation. Hein, les INSPE travaillent très, très bien. Mais intégrer ces compétences dans toutes les disciplines, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les travailler à part, c'est tous les jours qu'un enseignant, qu'il soit de mathématiques, de physique ou un professeur des écoles polyvalent, eh bien, c'est tous les jours un petit peu qu'il doit travailler quelques compétences, dont l'empathie dont vous parlez.
Alors, pour presque conclure, on va peut-être prendre un exemple de reconstruction en local. Et là, c'est dans le cadre de la formation. Il me semble qu'ici, à Limoges, en Nouvelle-Aquitaine, il va y avoir prochainement l'émergence de la création d'une nouvelle collaboration entre la fac de médecine et la faculté des sciences humaines. De ce que j'ai compris, c'était pour favoriser une meilleure formation, notamment des enseignants. Mais est-ce que c'est seulement ça ? Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce projet ?
Alors, la mise en place de passerelles avec la faculté de médecine, donc entre la faculté des sciences des lettres et sciences humaines et la faculté de médecine, et en particulier entre le département des sciences de l'éducation et donc la faculté de médecine, elle existe depuis quelques années pour ce qui est des cours. Donc on échange, moi je vais enseigner en master santé publique par exemple, des méthodologies de recherche qui sont plus sciences humaines. Et mais l'idée c'est justement de ne pas se cloisonner. Ça rejoint ce dont vous avez parlé en introduction de cette émission, c'est-à-dire le jouer collectif et de montrer que les compétences de chacun sont intéressantes pour tout le monde. Alors ça ne veut pas dire qu'on veut former des personnes complètement polyvalentes. Non, chacun ses spécialités. À la fac de médecine, ils ont des spécialités, nous aussi. Mais il y a des complémentarités qui peuvent exister. Et dès l'année prochaine, en particulier avec les masters, eh bien, vous avez des enseignants de la faculté de médecine qui vont venir faire de l'éthique, de la bioéthique avec nos étudiants. Et nous, on va aller faire de l'éthique plus pensée, je dirais, sciences humaines, avec leurs étudiants.
Et qu'est-ce que vous espérez que cela peut avoir comme résultat, que ce soit pour les étudiants ou les enseignants ?
peut-être une ouverture d'esprit, peut-être d'autres compétences. On a toujours à gagner à découvrir l'autre dans son altérité. L'autre, il ne doit pas être vécu comme embêtant, il doit être vécu comme source d'intérêt, de découverte de quelque chose de différent de nous. Et cette différence, d'ailleurs, l'éducation à la diversité, elle permettrait, si elle était correctement, enfin, si elle était mise en place plutôt dès le plus jeune âge, elle permettrait d'atténuer pas mal de problèmes de notre société.
Pour terminer, j'ai deux petites questions en vrac que j'ai pas réussi à caler dans mon
J'aurais
conducteur.
J'aurais des réponses en vrac.
Et donc voilà, j'attends ça et j'attends surtout plutôt un avis parce qu'en effet, c'est peut-être des questions où on n'a pas encore assez de recul pour y répondre de manière scientifique. Première question, c'est en termes d'organisation du planning scolaire. Aujourd'hui, on le sait, il y a plusieurs vacances et puis les grosses vacances arrivent en été. On constate aujourd'hui avec le virus du Covid, même si on a encore beaucoup de choses à découvrir sur son sujet, qu'il fonctionne en termes de diffusion, en tout cas comme beaucoup d'autres virus, c'est-à-dire qu'il se diffuse beaucoup en hiver. Doit-on déplacer les grandes vacances en hiver, d'après vous, pour éviter que le parcours scolaire des élèves ou des étudiants soit trop chamboulé?
Donc là, je vais utiliser mon premier joker. Bah écoutez, c'est plus compliqué d'aller s'allonger sur une plage en plein mois de janvier. Alors même si on n'a pas peur, je pense qu'on va peut-être travailler plutôt à imaginer comment on peut lutter contre les virus. Enfin, pas lutter, comment, vous voyez, je reprends un discours guerrier. Comment on peut vivre avec un virus et justement essayer de vivre le plus longtemps possible plutôt que de déplacer les vacances. C'est toujours un sujet délicat quand on s'adresse à un enseignant. Je ne sais pas, il existe aussi des problèmes, des virus qui sont plutôt l'été, tout dépend dans quel hémisphère on se situe. Je ne sais pas si ça permettrait de résoudre le problème. Je pense que le problème, il passe par ailleurs. On s'est bien rendu compte là qu'en mettant en place des gestes barrières, on arrivait quand même à maintenir une épidémie. Là, on a un peu lâché depuis une ou deux semaines parce que le variant est un peu moins embêtant. Je ne sais pas si la solution passe par la modification des vacances. Il y en a l'hiver, de toute façon, des vacances.
Et puis, comme vous dites, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui ne seraient pas contents.
Peut-être, dont les enfants. Hein.
Dont les enfants, évidemment. Dernière question, là aussi, sur cette fameuse distanciation sociale que l'on voit évidemment beaucoup plus dans le monde professionnel, le fait de ne plus se serrer la main, de ne plus faire la bise, de faire attention, d'avoir tous ces process, de mettre le masque, se laver les mains avec du gel, etc. On imagine que cela va avoir un impact et est peut-être déjà là. Mais est-ce que vous avez remarqué déjà des conséquences par rapport à vos collègues ou vos étudiants, des gens qui ne vivent peut-être pas très bien cela, je ne sais pas.
Je ne sais pas s'ils m'écoutent, donc je vais être policé dans ma réponse. Des conséquences, je ne sais pas. Ça a exacerbé, là encore, des problématiques. Par exemple, le gel hydroalcoolique, l'utilisation plusieurs fois par jour, c'est pas forcément génial parce que il faut qu'on ait un système immunitaire qui soit confronté à des agents pathogènes pour apprendre à se défendre. Et justement, le problème actuel, c'est que comme il est confronté à moins d'agents pathogènes, il est moins capable de se défendre et un petit virus peut nous embêter parce que le SARS-CoV-2, c'est un virus du rhume, certes, il est plus embêtant qu'un rhume standard, mais ça reste un virus du rhume. Et heureusement pour nous, hein, que c'est pas un virus beaucoup plus létal. Mais ça a exacerbé des problèmes qui existaient, c'est-à-dire que ça soit des problèmes psychologiques, donc les gens sont un peu plus reclus, s'isolent des autres et amis ou leur famille. Adopter des gestes barrières dans la vie professionnelle, pourquoi pas? Après tout, avait-on vraiment besoin de se faire la bise? Que la bise reste, oui, au sein des groupes familiaux, des constellations familiales, ouais, c'est important, mais là, chacun voit midi à sa montre. Mais par contre, dans le milieu professionnel, est-ce que c'était vraiment important? Regardez la culture japonaise où ils portaient le masque. Nous, il y a 2 ans, imaginer qu'on serait en train de parler ensemble avec un masque chirurgical, on ne pouvait pas l'imaginer il y a 2 ans. Au Japon, oui, très bien.
Et ça, c'est parce que c'était culturel aussi,
peut-être. Oui, c'est tout à fait culturel, oui.
Enfin, on parlait de civisme, de vivre ensemble, c'était aussi peut-être ça aussi. Et dans la société japonaise, on est plus attentif quand on est malade, justement, à ne pas vouloir contaminer les autres.
Oui, voilà, c'est ça. C'est peut-être pas une mauvaise idée à garder quand on est un petit peu grippé, quand on n'est pas bien, quand on est un peu enrhumé, de sortir dans la rue avec un masque ou d'aller en classe avec un masque. Oui, c'est peut-être une idée à garder, ça.
En tout cas, on a eu plusieurs pistes sur bien la possibilité d'interroger ou en tout cas de comprendre les liens qui sont interdépendants entre l'éducation, la santé et les sociétés. On a eu quelques pistes pour pouvoir peut-être reconstruire ensemble à ce sujet-là. Et si vous pouviez juste me rappeler où est-ce que l'on peut retrouver votre publication. On mettra d'ailleurs en lien externe aussi pour les personnes qui souhaitent le consulter.
Donc c'est dans la revue Recherche et Éducation, hein. Vous tapez sur un moteur de recherche, Recherche et Éducation, c'est son nom. Vous allez sur le site UNIRES, il y a un onglet contact et vous pouvez demander via ce lien que je vous envoie le dit article.
Super. David Autier, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
De votre temps. Et il est temps pour moi de redonner la main du côté de Poitiers à Héloïse et François.